Que le nom du Seigneur soit béni. Nous venons de le célébrer, nous venons de l'adorer. Dieu veut que nous le connaissions. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Beaucoup de gens chantent des cantiques et pourtant ne le connaissent pas. Ça peut arriver, peut-être pour plusieurs. Vous le chantez, vous le célébrez, vous l'adorez, vous le magnifiez et pourtant vous ne le connaissez pas. Les propos que vous tenez, la façon dont vous réagissez dans les épreuves le montrent bien. Nous allons donc ce soir travailler la parole de Dieu de telle sorte que nous le connaissions mieux. Est-ce que ça vous intéresse de mieux connaître le Seigneur ? Je le pense. Alors nous allons faire une lecture, plusieurs lectures. Je vous encourage à les noter toutes afin que chez vous, vous puissiez les remettre toutes ensemble. C'est un petit peu comme un puzzle et ça vous permettra de comprendre vraiment pourquoi ces choses ont été écrites. Beaucoup de gens s'imaginent que la Bible, c'est un livre, voilà, il y a 66 livres qui résument l'histoire d'Israël, la venue de Jésus. Mais tout ce qui a été écrit permet l'édification de chacun de nos cœurs. Et c'est important de le comprendre. Vous allez en tous les cas le réaliser ce soir encore un peu plus. Dans l'évangile de Luc au chapitre 4, Jésus arrive, il présente son ministère parmi les Juifs, parmi des gens très religieux, et il dit quelque chose. Ils connaissent très bien la loi et il va dire quelque chose qui va ne pas leur plaire du tout. Dans l'évangile de Luc chapitre 4 verset 25. Si vous le lisez pour la première fois, vous n'allez pas comprendre la réaction des Juifs. Mais si vous l'avez lu et si vous avez médité les Écritures, vous comprenez pourquoi. Évangile de Luc, chapitre 4, verset 25. « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. » Après, il va parler du lépreux. Et regardez au verset 28, quelle a été la réaction de ces religieux, des gens qui connaissaient la loi de Dieu. « Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. » Je ne sais pas ce que vous pensez en lisant la réaction de ces gens religieux qui aiment la loi par-dessus tout, et lorsque Jésus leur parle de ce qui s'est vraiment passé, à la place d'être remplis de joie, ils sont remplis de colère. Pourquoi ? Eh bien, c'est facile à comprendre. C'est que Jésus est en train de leur expliquer qu'à une certaine époque, malgré leur religion, eh bien, Dieu n'a pas pu les bénir. Dieu ne s'est pas intéressé à eux. Par contre, il s'est intéressé à une femme étrangère qui, pendant la famine, a été bénie. Alors, bien sûr que nous, les chrétiens, cela nous convient parce que cela nous permet de comprendre que Dieu bénit ceux qui le craignent, que Dieu bénit ceux qui le cherchent. C'est important de le comprendre parce que nous vivons des temps de famine. Il y a la famine spirituelle, mais il y a également la famine matérielle qui se présente de plus en plus. Ce matin, j'entendais aux infos qu'il y a 10 millions ou 6 millions de Français qui ont du mal à payer leur électricité. Donc ça représente bien qu'il y a de plus en plus de gens qui sont dans une véritable famine. Dans un roi au chapitre 17, cette histoire est relevée. Cette histoire qui nous montre que Dieu regarde au cœur et non pas à la religion. Je ne sais pas vous, est-ce que vous pensez que Dieu bénit les religions, que Dieu, en fonction de leur nombre, en fonction de leur réputation, en fonction de leur, je sais pas, de leur éloquence, en fonction de... Non, Dieu regarde au cœur. Vous le croyez ça ? En tous les cas, si vous le croyez, vous allez en être encore plus persuadé. Dans le livre des Rois, au chapitre 17, cette histoire est racontée. Nous y voyons une femme qui a la crainte de Dieu. C'est important de comprendre pourquoi cette étrangère, si loin de Jérusalem, a été bénie, alors que en Israël, les religieux, les gens croyants, n'ont pas été bénis. Vous savez, ce sont des choses très sérieuses. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien, baptisé depuis longtemps, que l'on va être plein de foi. Et ce n'est pas parce que l'on paraît être étranger aux choses de Dieu que l'on ne sera pas béni. On va le voir, Dieu vraiment regarde au cœur. Un roi chapitre 17, dont Jésus fait allusion à cette affaire, qui s'est passée très longtemps avant la venue du Seigneur. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta.
Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau, dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Pourtant, je vous assure que ce qu'elle était en train de traverser aurait pu la dissuader de faire ce geste. Elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Vous voyez un petit peu la détresse dans laquelle se trouvait cette femme. Nous, on lit ça, on le relit, on le re-relit, mais imaginez-vous la détresse dans laquelle se trouvait cette famille. Élie lui dit, « Ne crains point, rentre et fais seulement, et fais comme tu as dit, seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » On pourrait, franchement, quand on lit ça pour la première fois, on pourrait se dire, mais quelle sorte de pasteur c'était, cet homme qui ne pense qu'à lui, un foyer est en train de passer par la famine, la détresse, et lui, monsieur, il demande un gâteau. Vous savez, parfois, Dieu nous demande des choses qu'on ne comprend pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du ciel. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Pardon ? La face du sol. Qu'est-ce que j'ai dit ? Ouais, excusez-moi. C'est bien, vous suivez. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Vous voyez ces histoires, elles sont là dans la parole pour nous fortifier. Vous ne le croyez pas? Surtout après ce qu'on va partager, même si je me trompe dans quelques mots. On va lire dans les psaumes. Vous savez que dans les psaumes, il y a beaucoup de textes qui indiquent les promesses de Dieu. Vous aimez les promesses? Les promesses ou les commandements? Qu'est-ce que vous aimez? Les deux? Les deux. Eh bien, heureux êtes-vous si vous êtes capable d'aimer les deux. Parce qu'en fin de compte, les deux sont liés. Vous avez vu dans cette histoire, il y a des promesses extraordinaires. La farine ne manquera pas, l'huile ne manquera pas. Mais il y avait un commandement, rentre et fais comme je t'ai demandé. Et la conjonction des deux fait qu'il y a la bénédiction. Et c'est ce que nous sommes en train de découvrir ce soir. Lisons deux psaumes. Le psaume 33, versets 18 et 19. Ce sont deux psaumes qui sont des promesses qui nous rappellent la méditation que nous partageons ce soir. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Il n'est pas dit sur ceux qui vont à l'église, sur les catholiques ou les évangéliques. Non, non, non. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Un peu plus loin, au psaume 37, versets 18 et 19 également, nous avons la même pensée. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Vous voyez, c'est une notion d'intégrité. Ce n'est pas la dénomination, ce n'est pas la religion. C'est ce cœur intègre. Et leur héritage ne durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Et ils sont, comment ? Rassasiés au jour de la famine. Quand vous lisez l'histoire du monde, l'histoire biblique, vous vous rendez compte que la famine est souvent revenue. En France, il y a eu des temps de famine, il y a eu des temps de disette, il y a eu des temps de détresse terrible, il y a eu des siècles pénibles, il y a eu des siècles d'abondance, mais il y a également eu des siècles de peste. Bon, une chose est certaine, nous voyons qu'à certains moments de l'histoire, ces choses sont revenues. Elles sont souvent, quand on lit la Bible, la conséquence de la désobéissance. Souvent, c'est la conséquence de la désobéissance. Qu'est-ce que nous voyons ? Au milieu des difficultés que nous rencontrons, tous, nous sommes continuellement invités, c'est le but de cette réunion, à considérer les bontés du Seigneur. Si vous avez lu la Bible, vous le voyez, chaque fois, je pense au prophète Jérémie, il était vraiment dans la difficulté, et à un moment donné, il va être se ressaisir, mais les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, oh que ta fidélité est grande, vous voyez, il réagit par la foi, c'est ce que la parole de Dieu a le pouvoir de nous faire, de nous faire réagir par la foi. Si nous réagissons juste intellectuellement, nous sommes passés à côté. Même si intellectuellement, on peut analyser. Dieu veut que nous vivions par la foi. Nous sommes continuellement dans des difficultés, donc nous devons continuellement nous ressaisir et considérer les bontés du Seigneur. Car j'espère que vous croyez que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées et qu'elles peuvent se renouveler chaque matin. Dans le psaume 46, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Je suis persuadé que beaucoup de Français, quand ils regardent les informations, sont vraiment bouleversés. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment bouleversés. Quand vous voyez ce qui se passe en haut comme en bas, vous êtes obligé, quelqu'un d'intelligent obligé aujourd'hui, est presque obligé d'être inquiet. C'est quelqu'un de réaliste. Et nous les chrétiens, nous avons la possibilité de rebondir et de voir les choses avec cette bonté de Dieu qui n'est pas épuisée. Donc, les textes sont là pour nous le rappeler. Je viens de lire deux versets d'un psaume qui nous montrent que dans les moments les plus pénibles, Dieu gardera ses enfants. Vous le croyez ça? C'est écrit. Ce sont des promesses. Cette femme a été bénie parce qu'elle a cru les commandements de Dieu et les promesses du Seigneur. Ces enfants, je le répète, ce ne sont pas des... Parce que ça ne veut rien dire. Vous savez, je suis pasteur, je vois toutes sortes de gens, de toutes sortes de dominations. Ça ne veut rien dire. Même dans nos milieux, il y a des gens qui ne sont pas attachés à Dieu. Même des gens baptisés par immersion ne sont pas convertis. Il y a des gens dans d'autres dénominations qui sont dans le flou artistique le plus possible et qui pourtant s'attachent à Dieu en fonction de ce qu'ils connaissent. Mais Dieu gardera toujours ses enfants, c'est-à-dire ceux qui continueront à le suivre. Ce soir, pourquoi nous sommes venus? Parce que nous aimons tourner autour là pour nous garer? Non, nous sommes venus parce que nous aimons la parole de Dieu, nous aimons prier, parce que Dieu veut que sa maison soit une maison de prière, nous aimons nous retrouver avec des frères et sœurs, nous aimons lui obéir. J'ai pas entendu d'amen. Je le redis parce que j'ai peut-être mal prononcé comme tout à l'heure, nous aimons lui obéir. Est-ce que vous aimez obéir? Mais c'est une bénédiction d'obéir à Dieu. Heureux les gens qui ont compris ça. Obéir à Dieu, c'est vraiment le secret du bonheur. Quand l'obéissance est considérée comme un fardeau, c'est clair qu'on n'a pas compris qui était le Seigneur. Nous aimons nous sanctifier. Nous sommes continuellement confrontés à de la tentation, à de l'adversité. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'on est vraiment agressés. Je ne sais pas comment vous le voyez, par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Nous sommes continuellement forcés d'être tentés. Mais nous avons un Dieu qui nous donne la grâce de surmonter cette tentation et nous devons le prier pour rester attachés à lui, comme le sarment reste attaché au cep. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde compliqué. Je ne sais pas si vous écoutez ce qui se passe au niveau religieux, mais quand vous regardez, moi il m'arrive des fois aller sur Internet, voir un petit peu les prophètes de nos jours, mais c'est affolant comme ils nous trompent. Et moi je vous enseigne plutôt de lire la Bible avant d'écouter les prophètes si vous ne savez pas ce que la Bible dit. Les prophètes de nos jours sont comme les prophètes du temps de Jérémie, ils disent paix, paix, alors qu'il n'y a pas de paix. Vous savez, il y a ce fameux évangile de la prospérité qui galope même dans notre courant évangélique et qui, je peux vous le dire, est un véritable poison. Nous sommes dans un monde où les prophètes, pour glaner davantage de monde, parce que c'est sûr que le succès, c'est peut-être gratifiant et valorisant, mais Dieu ne veut pas le succès selon ce que nous voulons. Dieu veut que les hommes soient vraiment sauvés et que les gens se tournent vers Dieu. Alors bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que d'un côté, vous avez énormément dans le milieu religieux de prophètes et de pasteurs qui prophétisent la paix, mais quand vous lisez les prophéties bibliques en ce qui concerne la fin des temps, on va en lire une, quel sera le signe de ton avènement? Vous rappelez cette question qui a été posée à Jésus? C'est dans Matthieu chapitre 24. Quel sera le signe de ton avènement? Vous avez déjà lu ce texte? Matthieu 24. J'espère que vous ne faites pas comme un chrétien qui avait 2 ou 3 ans qui était converti, qui cherchait l'évangile dans l'Ancien Testament. On peut se demander quand même. Matthieu 24, dont une question est posée au Seigneur, quel sera le signe de ton avènement? Et au verset 7, vous avez une de ces fameuses prophéties. Alors on les croit ou on ne les croit pas, moi je crois que tout ce qui a été dit par Jésus est la vérité. Matthieu 24, verset 7, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Une nation contre une nation, alors on le voit dans certains pays en guerre, on le voit en Afrique en particulier, il y a une nation contre une nation. Par exemple, ce qui se passe au Mali, ce n'est pas une nation contre une nation, c'est un royaume contre un royaume. On le voit bien, on ne va pas parler de religion, mais vous avez compris ce qui se passe. Ce qui se passait en Irak, c'est pareil, ce n'était pas une guerre contre une guerre, c'est un royaume contre un royaume. Et on le voit de plus en plus, il y a des guerres, il y a des royaumes contre des royaumes, et il y a en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Il y aura des famines. Alors, il y a des famines terribles aujourd'hui, c'est terrible les famines. C'est pour ça que c'est bien, on se demande parfois à quoi sert l'argent de l'Église. Eh bien, béni soit Dieu pour tout ce que l'on fait pour aider nos frères et sœurs qui sont au Niger, au Bangladesh, etc., etc. Béni soit le Seigneur pour tout ce que l'on peut faire pour aider les frères et sœurs qui sont dans des pays qui connaissent ces famines. Il est aussi prophétisé que dans certains pays, il y aura de l'abondance et les gens seront étourdis par les... Les gens seront, quand il dit par le manger et le boire, appesantis par les excès du manger et du boire. Vous voyez, alors en Afrique, les gens meurent de faim, et aux États-Unis, mais ça vient en France, les gens meurent parce qu'ils mangent trop. Vous voyez, c'est paradoxe. Bon, en fait, tout ça, ça fait partie du déséquilibre. Mais une chose certaine, il y a des famines. Il y a des famines sur la terre, il y a des famines matérielles, et il y a des famines spirituelles. Et en France, s'il n'y a pas de famine matérielle, même si on en prend le chemin, une chose est sûre, en France, il y a une famine spirituelle. Vous connaissez ce texte des Lamentations, les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Il y a des gens qui vont dans les églises, ils voient, je vais le dire, c'est peut-être un peu cru, mais c'est la vérité, ils voient du théâtre. Ils voient du théâtre. On le voit. Il y a des gens qui disent, oh, j'ai visité une église, oh, j'ai fait des photos de tel monument. Non mais l'église, c'est pas le théâtre. L'église, ce n'est pas la religion. L'église, ce n'est pas la tradition, ce n'est pas la religiosité. L'église, c'est le spirituel. On amène les gens à chercher Dieu, à rencontrer Dieu. À quoi ça sert d'avoir une belle église, d'une belle religion, tout ce que vous voudrez derrière, serait-elle pentecôtiste ou évangélique, si les gens ne se préparent pas à rencontrer le Seigneur? Ça ne sert strictement à rien. Des fois, on me le demande, mais à quoi ça sert une église? Eh bien, il faut que les gens se préparent à rencontrer Dieu. Voilà, c'est ça à quoi ça sert une église. Ce n'est pas faire du social pour faire du social, ça c'est bien. Mais une église, ça permet aux gens de se préparer à rencontrer Dieu. C'est une catastrophe, la famine spirituelle. Parce que les gens, il y a des gens qui cherchent Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui cherchent Dieu? Tous les dimanches, il y a des gens qui disent, tiens, ben, peut-être je vais aller dans l'église. Le gars, la fille, elle a bagarré intérieurement pendant des mois, peut-être des années pour aller dans une église. Et quand elle rentre dans une église, qu'est-ce qu'elle entend? À la place d'entendre une prédication sur la croix de Christ, elle voit des gens faire du théâtre. Et je peux vous dire, malheur à ces gens qui ont empêché les hommes de rencontrer Dieu. Jésus n'a jamais été sévère envers les prostituées. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il les a aidés à aller à la croix, etc., etc. Si Jésus a été très sévère, c'est envers les pharisiens qui empêchaient les gens de rentrer dans le royaume de Dieu. Malheur à eux, malheur à vous. Combien de fois il l'a dit dans les évangiles, malheur à vous qui empêchez les hommes de rentrer dans le royaume de Dieu. Ce soir, si vous ne connaissez pas la grâce de Dieu, vous devez la découvrir. Le seul moyen, ce n'est pas une église, ce n'est pas notre dénomination, c'est de lire, vraiment de lire la parole de Dieu. En tous les cas, c'est une catastrophe. Et moi, le dimanche matin, quand je viens à l'église et que je suis heureux de nous retrouver tous ensemble, je pense à ces Français, à ces étrangers qui cherchent Dieu et qui vont entendre que des âneries. Vous savez, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Il y a une dame qui me disait qu'elle a été dans une église avec sa fille pour rencontrer Dieu. Et toute la prédication, le serviteur de Dieu, je ne vous dis pas que c'est un curé ou un pasteur, le serviteur de Dieu a expliqué comment toute la semaine, il faisait marcher son chien sur les pattes arrière. Vous vous rendez compte?
Ils m'ont dit, mais. Elles me l'ont dit. Elles m'ont dit, mais écoutez, c'est quoi? On cherche Dieu. Et l'homme de Dieu expliquait comment il s'amusait à faire marcher son chien sur les pattes arrière. Franchement. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est grave? C'est grave ou c'est pas grave? Est-ce que vous vous rendez compte, quelqu'un qui cherche Dieu et qu'il entend une ânerie pareille? Vous voyez un petit peu? Et c'est vrai ce que je vous dis. Pour vous dire que c'est grave, oui, l'évangile, c'est sérieux. Parce que Dieu veut que vous soyez bénis. Dieu veut que vous expérimentiez sa grâce. Dieu veut que vous compreniez ses commandements. Dieu veut que vous compreniez ses promesses. Quel que soit ce qui peut se passer, quelles que soient les famines qui peuvent se présenter, la famine, elle est là. Mais dans la famine, il y a un Dieu tout-puissant qui protège ses enfants. Alléluia. Et quand vous voyez dans la Bible les famines, je pense à une autre famine qui a eu lieu du temps d'Élie, eh bien, il nous est dit qu'Élie, il était dans une maison avec les anciens et qu'il priait et qu'une parole leur a été donnée. Et que c'était une famine très, très, très sévère. Mais voyez, ils étaient dans la confiance et Dieu a donné une parole demain à cette heure-ci. Eh bien, voilà, je pourvoirai. C'est extraordinaire, dans des temps difficiles, d'avoir une parole de Dieu. Peut-être que ce matin, vous avez lu la Bible et que vous avez eu une promesse qui vous a fortifié. Est-ce que ça peut arriver? C'est ça que nous devons absolument comprendre. Lire la Bible, non pas pour la lire bêtement et mécaniquement et religieusement, mais la lire pour comprendre ce que Dieu a à nous dire. Regardez un autre texte avec moi dans 1 Roi au chapitre 8. Parce que nous sommes confrontés, même nous-mêmes, à des famines intérieures. Est-ce que ça vous est jamais arrivé d'être mort de faim? Eh oui, on peut avoir faim d'espoir, faim de tendresse, je ne sais pas moi. De quoi on peut avoir faim? De quoi on peut avoir faim? De justice, etc. Et on peut souffrir, c'est une forme de famine personnelle. Et regardez dans 2 Rois, au chapitre... dans 1 Roi, pardon. Un roi au chapitre 8, verset 37. C'est Salomon qui prie, il prie et il sait très bien, il connaît Dieu. Vous savez qu'il a reçu beaucoup de sagesse et il prie Dieu. Et il prie Dieu parce qu'il sait très bien que les difficultés seront là. Et quand il dit, voyez, quand la famine, 1 Roi 8, 37, quand la famine, voyez, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, on pourrait dire aujourd'hui le cancer, on pourrait dire, je ne sais pas moi, le sida, voyez, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple, dans son pays, quand, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël, on pourrait dire si l'Église, fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur, et étende les mains vers cette maison. Exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, agis, rends à chacun selon ses voies. Car, regardez bien cela, car toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Amen. Amen. Vous pouvez dire amen. Amen dans le sens de dire que Dieu connaît votre cœur. Vous, des fois, est-ce qu'on se connaît vraiment? Je ne sais pas. Mais comment cela se fait-il que Dieu nous ait attendris pour que nous comprenions sa parole? Ce n'est pas une bénédiction? On se dit, mais pourquoi Seigneur, moi tu m'as sauvé, alors qu'il y a des gens qui sont super, parfois même mieux, et qui sont durs envers toi. Dieu connaît le cœur de tous les hommes. Et il y a des gens qui sont honnêtes. Vous voyez, si chacun reconnaît la plaie de son cœur, il faut être honnête et dire, oui, ça ne va pas. Oui, ça va pas dans mon cœur. Je constate qu'il y a ça qui va pas. Si chacun reconnaît la plaie de son cœur, exauce-le du haut des cieux. Dieu vous connaît. J'espère que ça vous rassure. Il vous connaît pas pour vous accabler, pour vous gronder, pour vous juger. C'est vrai que sa sévérité existe, mais Dieu vous connaît pour vous aider. Il sait exactement ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de paix ce soir, n'allez pas chercher ailleurs. Vous avez besoin de paix. Vous avez besoin de paix. Dieu sait si on est attaché à lui. Dieu sait pourquoi on est venu ce soir dans sa maison. Il le sait. Il voit tout. Et il y a un verset qui m'est venu à l'esprit également quand je préparais cette prédication. C'est cette intelligence. Quand Dieu voit les cœurs. Et regardez dans l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, il y a moi, c'est un verset qui m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'il exprime que dans un temps difficile, il y a ceux qui, justement, dans leur cœur, ont un souci, c'est de garder sa parole. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Dieu connaît ce qu'une église fait. Donc à cette église de Philadelphie, Dieu parle. Et voilà ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. J'ai mis, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc Dieu est en train de dire à cette église que même s'il n'y a pas de la puissance, il y a ceux qui gardent la parole. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Il n'y a que Dieu qui voit si on garde la parole. Vous le comprenez? Est-ce que parce que je prêche, ça vous prouve que je garde la parole? Mais non. Non. Non, non, ça ne veut rien dire. Mais non, n'importe qui peut prêcher, n'importe qui. Je pense que tout le monde peut exposer un texte biblique, c'est pas pour ça qu'il obéit à ce texte biblique. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu voit dans le cœur, Dieu sait ce qui se passe dans votre cœur. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Là, on n'est pas on n'est pas dans l'apparence, on est vraiment dans le cœur. Dieu regarde au cœur. Et c'est ce qu'il est en train d'expliquer aux pharisiens. Voyez, vous avez une religion, mais du temps d'Élie, quand il y a eu la famine, Dieu n'a béni que cette étrangère. C'est sûr que ça ne leur a pas plu du tout. Alors ils auraient dû dire, mais c'est vrai, on s'est fait manger par notre religion. Dieu ne regarde pas l'apparence, Dieu regarde au cœur. Et le ciel était fermé, c'est ce qu'ils ont compris. Croyez-moi, ils ont compris que le Dieu avait fermé le ciel sur eux et qu'il l'avait ouvert à une étrangère. C'est pour ça qu'ils étaient remplis de colère. Oui, il y avait une grande famine du temps d'Élie. Et Dieu n'est pas intervenu, sauf pour une femme qui a su obéir, comme on l'a lu tout à l'heure. Pourquoi est-il intervenu sur cette femme? Pourquoi? Vous avez vu, ils étaient furieux. N'oubliez pas que pour eux, c'était le peuple d'Israël, Dieu aimait le peuple juif, un point c'est tout. Les étrangers, c'était des païens, c'était des pécheurs, Dieu n'aimait pas les étrangers. Et quand Jésus est arrivé, il a bien fait comprendre à tout le monde que Dieu n'est pas mort sur la croix pour un peuple, il est mort sur la croix pour tous les hommes de la terre. Et que Dieu bénit les hommes qui le craignent. Et cette femme, toute étrangère, toute lointaine, eh bien, Dieu l'a bénie. Ça nous enseigne une chose, que Dieu bénira ceux qui le craignent. Où que vous soyez, qui que vous soyez, Dieu ne bénit pas la religion, Dieu bénit ceux qui ont véritablement une profonde spiritualité. Cette femme, elle avait la crainte de Dieu. On n'a pas le temps de voir, mais vous relirez cette histoire, vous la relirez. Ça vous aidera à méditer et à comprendre que Dieu sait quand est-ce qu'il doit intervenir. Dieu sait quand est-ce qu'il doit intervenir pour vous. Vous croyez que quelqu'un qui a la crainte de Dieu, Dieu peut pourvoir? Est-ce que vous le croyez vraiment? Que Dieu sait quand est-ce qu'il doit intervenir. Pour votre vie physique, professionnelle, sentimentale, etc. Est-ce que c'est important tout ça? Est-ce que ce sont des besoins? La vie affective, est-ce que c'est important? Les jeunes, vous souriez. Est-ce que c'est important? Quand on est marié, est-ce que c'est important la vie affective aussi? Et ouais, c'est important. C'est toujours, tout est important. La vie affective, la vie professionnelle, c'est important dans un temps de famine de croire que Dieu pourvoira, d'avoir une promesse de Dieu que l'huile ne manquera pas, que la farine ne manquera pas. Est-ce que ça vous rassure? Eh bien, moi, oui, ça me rassure. De savoir que quelle que soit la famine, à partir du moment où quelqu'un a la crainte de Dieu, Dieu le bénira. Il est dit dans 1 Roi 17, 15, elle fit selon la parole d'Élie. Voilà pourquoi elle a été bénie. Pourtant, laissez-moi vous dire qu'elle aurait pu justifier de la haine, de la colère. Combien aujourd'hui diraient, ouais, ton Dieu, écoute, tu nous saoules avec tes trucs. Moi, t'as vu dans quel état je suis. Ne me parle pas de Dieu. C'est pas comme ça que les gens réagissent aujourd'hui. Cette femme, elle était en train, elle se programmait à mourir. Et quand elle entend la parole de l'homme de Dieu, de suite, elle obéit et elle fait exactement ce qu'il lui est demandé. Et mes frères et sœurs, c'est ça la piété. Vous comprenez, vous ne comprenez pas, vous êtes nouveau, vous êtes ancien, qu'importe. quand une parole de Dieu vous est adressée, vous la prenez au sérieux. Ah, tu me demandes, Seigneur, d'abord de te préparer quelque chose. Moi, je veux la bénédiction. Moi, je veux la guérison. Qu'est-ce que tu me dis ce soir au travers de ce pasteur? Qu'il faut d'abord chercher le royaume de Dieu. Oh, ah bon? Mais je vais le faire. Moi, je veux la bénédiction. Tu me parles de repentance. Eh bien, je vais me repentir parce que je vis dans le péché. C'est ça, la crainte de Dieu. Elle fit ce que Élie avait demandé. Et n'oubliez pas une chose, c'est que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais Dieu parle par ses serviteurs. Alors c'est sûr qu'en tant que serviteur, c'est peut-être délicat de le dire, mais n'oublions pas que Dieu parle par sa parole. Et que ce soir, une parole de Dieu peut vous interpeller. Quelque chose peut vous interpeller, ou cette prédication peut amener un cœur disposé à le chercher, afin que vous écoutiez vraiment sa parole. Mais que ferez-vous de la parole de Dieu ? Si vous relisez cette histoire, peut-être que vous serez touché par cette parole que quand Élie a dit à cette femme, « Ben rentre, rentre, rentre chez toi. » Peut-être que c'est une parole qui va vous toucher. « Ben rentre chez toi. » Ah, attendez, la fin de la réunion. « Mais rentre chez vous et faites ce que Dieu dit. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est peut-être ça que vous avez besoin d'entendre. Ah, mais c'est un commandement. Oh, moi, Seigneur, je voulais une bénédiction. Moi, je voulais une promesse. Oh, tu me parles d'un commandement. Eh bien, bénissez le Seigneur. Si tu étais attentif à ses commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Prépare-moi d'abord. C'est quelque chose qui paraît vraiment grossier de la part de ce pasteur. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas grossier. Si Dieu vous dit, cherche d'abord le royaume de Dieu, laissez-moi vous dire que vous n'y perdrez pas au change, parce que toutes choses vous seront données par-dessus. Et le drame aujourd'hui, c'est que les gens, ils ne cherchent pas Dieu. C'est pas vrai, ils cherchent la bénédiction. Est-ce que c'est bien la bénédiction? Est-ce que Dieu veut la donner, au fait? Oui, mais si c'est qu'avoir la bénédiction pour la bénédiction, si ça doit vous éloigner de Dieu et vous amener à l'enfer, c'est pas la peine. Cherchez Dieu. Le seul moyen, c'est de connaître la parole de Dieu. Ce soir, nous lisons la parole de Dieu. Et soyez attentifs à une parole que Dieu peut vous adresser. Et c'est pour ça que c'est bien d'aimer lire la parole de Dieu. Moi, je vous assure, ce matin, j'ai prié par rapport à une situation un petit peu compliquée que j'ai dû vivre par rapport à des affaires. Et je me suis réveillé avec ce verset. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais je vous assure, ça m'a fait beaucoup de bien. Et parce que franchement, je n'ai pas le temps de vous l'expliquer, ça ne sert à rien, mais c'était assez délicat ce que j'ai dû vivre hier. Oui, et pour conclure, on va parler d'un texte qui est dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, au chapitre 6, il nous est parlé d'une famine qui viendra sur la terre. Alors je pense que ça sera après l'enlèvement de l'Église, mais ça ne fait rien. Il est parlé d'une famine qui viendra sur la surface de la terre. Apocalypse, chapitre 6, verset 5. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier ». Vous voyez, ça, alors aujourd'hui ça voudrait dire une mesure de blé, donc c'est un pain, une baguette ou une flûte, pour un denier, c'est-à-dire pour une journée de salaire. Ça veut dire qu'il y aura un temps sur la terre où pour avoir une flûte de pain, il faudra travailler toute la journée. Non, le moins, mais... la journée, c'est déjà pas mal quand même. Cette époque viendra. Je pense que ça sera après l'enlèvement. Je m'étonnerais que je me trompe. Ça viendra après l'enlèvement. Mais ce que je voudrais que nous retenions, c'est qu'il est dit 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fait pas de mal à l'huile et au vin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'huile nous parle toujours de l'onction du Saint-Esprit. Le vin est toujours le symbole puissant du sang du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi, hein? L'huile, le symbole du Saint-Esprit, et le vin, le symbole de la joie, j'en conviens, mais surtout le symbole puissant du sang du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Que dans une période de famine, le Seigneur donne toujours la possibilité d'avoir la vie de l'esprit et la communion, c'est-à-dire cette joie, avec le Seigneur. Alors, c'est évident, on le voit quand on lit la Bible, on le sait, la colère de Dieu s'approche. Le mariage homosexuel, écoutez, vous lirez Romains 1 et Romains 2 si vous avez des difficultés à me croire, mais l'épître de Paul, de Saint Paul aux Romains, Romains 1 et Romains 2, et vous lirez que l'homosexualité attire la colère de Dieu. Mais dans ces temps difficiles, dans ces temps de famine, une chose est sûre, si d'un côté les cœurs qui rejettent Dieu attirent la colère, d'un autre côté, nous voyons la fidélité de Dieu envers ses enfants. Que le nom du Seigneur soit béni. Et on pourrait prendre d'autres exemples, je n'ai pas le temps parce que l'heure a tourné, mais je peux vous dire que ceux qui gardent sa parole seront gardés, famine ou fléau ou quoi que ce soit qui se passe. C'est pour ça qu'ils étaient furieux, parce que pour eux, la religion, c'était la meilleure, et donc Jésus est en train de leur dire qu'elle ne servait à rien, en fin de compte. Mais Jésus est en train de nous expliquer à nous qu'il garde ses enfants et qu'il sait quand est-ce qu'il doit intervenir sur l'un, sur l'autre. Et ceux qui sont fidèles, on ne va pas relire les psaumes, mais relisez-les, le psaume qu'on a lu, le psaume 33 et le psaume 37, et vous verrez que ceux qui sont intègres, ceux qui gardent la parole, ceux qui sont sérieux avec Dieu, ceux qui écoutent une parole de Dieu, eh bien ceux-là, ils ne seront pas affectés par la famine. Oui, parce que Dieu est bon et Dieu protège ses enfants. Vous le croyez ça ? Alors, soyez bénis, restez fidèles à Dieu, attachez-vous aux choses de Dieu. Oui, ne touche pas à l'huile et au vin. Je pense que ça c'est dans des temps, après l'enlèvement de l'Église, c'est dans des temps profondément difficiles, mais après l'enlèvement de l'Église, il y aura aussi des gens qui vont faire mea culpa et revenir profondément à Dieu, parce qu'ils savent très bien ce qui va se passer après l'enlèvement de l'Église. Donc même après, alors qu'il n'y aura plus sur la terre la grâce de Dieu, Dieu quand même fera grâce à ceux qui reviendront sérieusement à lui, parce que nous voyons une grande foule de gens qui se convertiront pendant la grande tribulation. Tout ça, c'est un peu compliqué peut-être pour certains. Ce que je veux que nous retenions surtout, c'est que Dieu sait quand est-ce qu'il doit intervenir. Dieu sait quand il doit intervenir. Dieu sait vous bénir. Vous le croyez ? Alors attendez-vous au Seigneur. On va fermer les yeux quelques instants. On va fermer les yeux. Cette veuve, elle a été bénie. Et les gens religieux ne l'ont pas été. Quel enseignement, mes frères et sœurs ! Quelle grâce, quelle consolation, en même temps, qu'est-ce que ça nous rassure. Je ne sais pas si ça vous rassure, mais moi ça me rassure. Ça me rassure, Dieu ne regarde pas à la religiosité. C'est clair, Dieu regarde au cœur. Et là, alors que nous sommes recueillis, vous ne pouvez pas douter, Dieu regarde à votre cœur. Et si vous dites, Seigneur, merci pour ta parole. Oui, je vais faire attention à tes promesses, mais aussi à tes commandements. Ce que tu promets, mais ce que tu me dis aussi. Et je vous assure que Dieu saura sur qui intervenir. Il voit tout ce qui se passe sur la terre entière. Nous, ça nous dépasse, on a du mal à avoir trois personnes en même temps. Mais Dieu, il connaît le cœur de tous les enfants des hommes, tous. Est-ce que ça vous rassure ? Moi, oui. Ça nous parle de sa puissance. Mais au-delà de sa puissance, il nous est surtout fait mention de son amour. Alors, je vais demander tout simplement à celui qui dit « Mais Seigneur, aide-moi à te connaître davantage, aide-moi à vivre d'espérance, aide-moi à réaliser que toutes ces choses sont pour mon bien. » Si vous avez bien suivi mon enseignement, vous avez vu que ces choses sont écrites pour que l'on comprenne que Dieu sait ce qu'il doit faire et sur qui il doit le faire. Que vous soyez juif, que vous soyez arabe, que vous soyez français, qui que vous soyez, si vous avez la crainte de Dieu, Dieu vous bénira. Alors si quelqu'un peut-être éprouve le besoin de se lever à sa place, peut-être dit, moi j'ai besoin qu'on prie pour moi. J'ai besoin qu'on invoque la grâce de Dieu sur moi. Eh bien alors que nous sommes tous recueillis, levez-vous à votre place. Levez-vous, je vais prier pour vous, pour que Dieu vous aide à vivre cette vie d'espérance, de grâce. Oui, il y a des temps de famine. Oui, il y a des temps difficiles. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un Dieu qui règne sur tous ces temps. Quand il y avait la peste en France, eh bien, écoutez, Dieu régnait. Voilà, vous pouvez le dire comme vous voulez. Est-ce que vous le croyez que Dieu régnait quand il y avait la peste ? Eh bien voilà, c'est pareil. Aujourd'hui, Dieu règne. Y a-t-il quelqu'un qui veut se lever, qui aimerait qu'on prie pour lui ? Parce qu'après tout, la maison du Seigneur est une maison de prière. Et je prierai pour lui. Sentez-vous libre maintenant, je le ferai. On reste recueilli, je ne veux pas savoir en fin de compte qui se lève. Ce que je crois, c'est que Dieu voit le cœur de ceux qui se lèvent. Si vous éprouvez ce besoin, si vous le sentez, faites-le. Voilà, je vais prier pour ceux qui se sont levés. C'est important, je vous donne quelques secondes, parce que je ne veux pas alourdir la réunion, mais réfléchissez. Si vous êtes continuellement en conflit avec vous-même, si vous êtes dans la peine, si vous êtes cavardeux, j'en sais rien, c'est que vous avez besoin de recevoir de Dieu de l'espérance. Et Dieu veut vous la donner. Si vous avez compris la prédication, c'est exactement ce que Dieu veut. Voilà, je vais prier pour ceux qui se sont levés. Notre Père, nous ne sommes pas furieux de ta parole. Nous sommes heureux de la partager. Nos cœurs ne sont pas remplis de haine, mais bien au contraire. Nos cœurs sont remplis de reconnaissance, car tu es grand et souverain. Et tu savais comment bénir cette femme, et tu sauras comment bénir ceux qui t'invoquent. Ceux qui te font pleinement confiance, tu nous vois, Seigneur, dans nos moments de bonheur, d'abondance, mais aussi de famine. Ce que nous croyons, Seigneur, c'est que tes greniers sont pleins, que tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, et qu'au milieu de la famine, tu garderas ton peuple. Seigneur, merci de nous avoir laissé ta parole. Fais en sorte que dans cette ville de Toulouse, les véritables chrétiens vivent dans cette abondance, afin qu'ils soient des sources de bénédiction pour tous ces gens qui sont malheureux. Tu vois tous les gens que nous côtoyons, Seigneur, donne-nous de les aimer, donne-nous de leur parler de toi, donne-nous les mots, Seigneur, qui leur permettront de te découvrir. Car nous le croyons, et comme nous l'avons dit tout à l'heure, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul Dieu, le vrai Dieu, et Seigneur Jésus que tu as envoyé, que ton nom soit béni. Pour ta sollicitude à notre égard, merci Seigneur Jésus. Amen.